Bande dessinée en fugue, Fabrice Henriot et Thierry Saint-Saulieu.
Bonjour Thierry.
Bonjour Fabrice.
Aujourd'hui, nous lisons un bel album, un grand album. Oui, on est un petit peu au-dessus du format habituel de bande dessinée avec Le peintre hors la loi de Franz Duchazeau, une parution Casterman. Alors, on n'avait pas vraiment connu Duchazeau chez Casterman. Jusqu'à présent, il était plutôt chez Dargaud. Voilà qu'il décide d'aller ailleurs pour continuer néanmoins à creuser son sillon. On retrouve ce à quoi il nous avait habitués, dont nous avons déjà parlé ici dans le cadre de cette chronique. Et je sais qu'il y a en particulier de Duchazeau deux albums qui vous ont marqué, Thierry.
Oui, il y en a un que j'ai toujours beaucoup aimé, qui a été réédité il n'y a pas si longtemps avec une nouvelle maquette très belle. C'est les 5 conteurs de Bagdad, féerie orientale où des conteurs participent à une compétition, on saurait mieux dire, de contes, sachant que le gagnant aura tous les honneurs et les perdants seront mis à mort. Donc ils décident de s'unir pour vivre les aventures les plus folles et ramener les contes les plus extraordinaires. C'est un album que je vous encourage vraiment à découvrir, qui était déjà très beau, avec une histoire très fascinante sur l'imaginaire, l'ailleurs, la puissance du rêve et de l'illusion. Et puis, évidemment, il y a un album récent dont on a parlé.
Bien sûr. Et qu'on ne cesse de partager et d'offrir même, je crois.
Oui, qu'on a plaisir à faire découvrir à ceux qui ne le connaîtraient pas. C'est Mozart à Paris. Alors, rappelez que Mozart à Paris se base sur des faits historiques tout à fait avérés. C'est le deuxième voyage de Mozart à Paris. Le premier voyage, c'est un enfant prodige. Il est fêté, adulé. C'est un singe savant. Les Parisiens l'adorent. Le deuxième voyage, il est devenu un compositeur comme les autres, aux yeux des Parisiens, qui ont bon goût, mais qui sont frivoles et changeants, qui s'épuisent à chercher des leçons à donner pour avoir un peu d'argent. Il est à Paris, la ville où sa maman va mourir. C'est une ville symboliquement très funeste. C'est le portrait d'un génie en décalage avec son époque, qui est conscient de sa valeur et qui souffre de la médiocrité de la société autour de lui.
Et de la pression paternelle aussi.
Oui, alors c'est un album historiquement très bien informé parce que c'est l'époque où Mozart écrit à son père quasiment tous les jours. Donc on sait très précisément ce qui se passe. Ce qui n'est pas le cas du personnage dont on va parler aujourd'hui, Lazare Bruandet, qui est un contemporain de Mozart. Si on y réfléchit, les dates de naissance coïncident, dates de décès à quelques années près. Il exerce un autre art, une autre muse qui l'anime, c'est un peintre. En lisant cette histoire, j'ai pensé à Mozart à Paris. À mon avis, c'est presque un diptyque. Mozart à Paris et le peintre hors la loi. Mozart, c'est un génie, c'est certain. Est-ce que Bruandet était un génie? En tout cas, c'était un artiste immense. Deux personnages qui sont confrontés à une société qui ne les comprend pas, qui leur semble médiocre. Deux personnages qui ont conscience de leur valeur. Deux personnages qui sont des caractères extrêmes, qui les portent à des actes extrêmes, surtout Bruandet. Bruandet, sa biographie est pleine de trous, contrairement à Mozart. Ces trous-là sont remplis, entre guillemets, par Franz Duchazeau pour former un portrait, c'est le cas de le dire. Le portrait d'un temps, le portrait d'un homme, et puis un portrait tout court, un peintre paysagiste.
Voilà, on est à la fin du XVIIIe siècle, donc. Et ce peintre paysagiste, il manie aussi bien le pinceau que l'épée.
Oui, on pourrait dire que le prolongement de son bras, c'est soit une épée, soit un pinceau. L'épée est beaucoup plus dangereuse pour ceux qui le provoquent, fin bretteur. Est-ce qu'il est meilleur escrimeur que peintre?
En tout cas, il dit que c'est plus compliqué de tenir un pinceau qu'une épée.
Je n'ai essayé ni l'un ni l'autre. Enfin, si, un petit peu plus le pinceau.
Vous me rassurez, Thierry.
Épée, je pense que ce serait plus dangereux pour moi-même que pour les autres.
Ce qui est certain pour Bruandet, Lazare de son prénom, c'est qu'il a aussi une certaine rage en lui qui sort beaucoup à travers l'épée et qui s'exprime différemment à travers son pinceau.
Oui, c'est quelqu'un qui, on le disait, qui a un caractère extrême, qui ne dédaigne pas la boisson, qui dans ces cas-là, dans ces moments de rage et puis de prise excessive d'alcool, peut être très dangereux pour les autres. Sa première femme décède. Dans le livre, il est émis l'hypothèse, il l'a défenestrée. En tout cas, c'est très raccord avec ce personnage.
Oui, et puis le doute existe réellement, mais on n'en est pas certain.
Et puis c'est un personnage qui a une réputation dérangeante. Il est célèbre pour être le premier ou un des premiers peintres sur le motif. C'est-à-dire qu'il va, au lieu de s'inspirer de tableaux existants ou de gravures, de copier les maîtres hollandais dans l'art qui l'intéresse, il va se rendre sur place. Et d'ailleurs, il y a une anecdote célèbre qui est citée dans le livre, c'est qu'il va croiser la chasse de Louis XVI. Et Louis XVI, dans son journal, raconte « Ce jour-là, j'ai croisé des sangliers et Bruandais. »
Voilà, et Bruandais, il parcourait la forêt de Fontainebleau en particulier. Il a été en quelque sorte un des précurseurs de l'école de Barbizon même.
Également, donc c'est quelqu'un que je ne connaissais absolument pas, j'avoue humblement. D'ailleurs, j'ai lu ce livre en pensant que c'était un personnage imaginaire. Et c'est ma collègue Gaëlle à BD Fugue qui m'a dit « Mais non, il a vraiment existé, va voir sur Internet, renseigne-toi. » Va voir ses peintures. C'est un personnage réel. Alors, comme on le disait à la biographie un peu incertaine, donc Duchazeau s'est permis de gonfler certains passages, de les imaginer toujours d'une façon très cohérente. Un personnage dont la rage, la colère sont sans doute motivés par des épisodes douloureux de sa jeunesse qu'on évoque sous forme de flashback qu'on ne dévoilera pas. Ils expliquent beaucoup son parcours, la fois son parcours psychologique et son parcours géographique. Un personnage qui est totalement fascinant. Un personnage qui est cohérent dans le parcours artistique de Franz Duchazeau, parce que quelque part, je trouve que sa façon de dessiner, son trait, son l'énergie, alors la rage, je ne sais pas si j'irai jusque-là, mais l'énergie et puis la densité qu'on trouve dans le dessin de Duchazeau, ils sont très raccord avec Bruandais et avec Mozart d'ailleurs.
C'est vrai que le trait de Duchazeau est très particulier. Hein. Alors vous me disiez qu'il utilisait aussi bien du fusain que du pinceau. Pinceau, on l'avait deviné. Le fusain, on le comprend parce que autant Bruandais, à un moment, on se retrouve tout griffé, autant le dessin de Duchazeau, il donne l'impression aussi que ce sont des griffes par moment qui dessinent.
C'est toujours le souci d'évoquer un type de dessin à la radio. C'est un dessin que j'aurais du mal à décrire. C'est un dessin presque lacéré, très intense et avec des moyens très simples. On voit quand Bruandais regarde fixement quelque chose, nous regarde, on prend peur parce qu'il a un regard pas de fou, mais d'obsédé. Et puis même dans son attitude, il y a un côté prêt à bondir. Quand on pense à ces paysages, enfin ces tableaux qui sont plus aimables, que c'est venu de ce personnage hors de lui, éructant en permanence, assez haïssable, mais manifestement génial, c'est assez fascinant.
Il y a un petit côté gravure aussi chez Duchazeau, pour revenir à ce dessin-là.
Oui, c'est pour ça. On creuse ce sillon en réfléchissant en même temps que nous vous délivrons cette chronique. C'est qu'il y a une cohérence dans la façon de traiter graphiquement ce personnage, dans les références. Alors, c'est toujours comment évoquer un maître de la peinture ou de la gravure sans tomber dans le pastiche ou la caricature. Dans l'évocation de ce qui l'entoure, de son paysage intérieur, qui ressortent dans ce qu'on voit dans cet album.
Alors j'ai une petite question piège pour vous Thierry. Lazare Bruandais serait-il allé jusqu'en Savoie à cette époque-là, lui qui arpentait surtout la forêt de Fontainebleau ?
Oui, alors je vais être tout à fait honnête. J'ai été voir ce qu'il en était des œuvres de Bruandais sur Internet, sur un célèbre réseau social encyclopédique qui commence par un W.
Tout commence par un W, hein. 3 W oui, même. Mais Wikipédia, pour ne pas le nommer.
Voilà, c'est lui, je le reconnais. Il est fait mention de tableaux de Bruandais qui se trouveraient au musée des Beaux-Arts de Nantes, et il est question d'un lac d'Annecy. Alors comment aurait-il pu réaliser un tableau ou une gravure du lac d'Annecy, sinon en s'inspirant d'une gravure ou d'un tableau déjà existant, parce que je l'imagine mal se déplaçant plus loin que la forêt de Fontainebleau, en tout cas dans cette époque, une époque horriblement dangereuse où les royalistes, les révolutionnaires s'affrontent, s'égorgent, s'étripent, on viole, on pille, on tue, c'est une époque terrible de guerre civile en fait. Se déplacer jusqu'en Savoie, c'est un mystère, je suis même demandé si ce tableau existait vraiment, donc à vérifier, mais ce serait assez remarquable.
D'autant plus qu'à l'époque, la Savoie n'est pas la France, si mes souvenirs sont bons.
De surcroît.
Donc s'il y a un historien de l'art parmi nos auditeurs, n'hésitez pas à aller creuser ce sillon-là aussi pour nous dire ce qu'il en est précisément. Mais en tout cas, vous aurez du plaisir à lire cet album, ça, il n'y a pas de doute. Le peintre hors la loi, moi je dois dire qu'au départ, ça m'a un tout petit peu rebuté. Je me suis demandé ce qu'on allait bien pouvoir découvrir là-dedans. Et finalement, ce personnage qui a des yeux qui font peur est très attachant. Véritablement attachant, avec un petit côté Cyrano. Je crois avoir lu d'ailleurs ça quelque part. Et c'est vrai qu'il y a un petit échange
aussi, oui.
Avec des épées qui se croisent. On est tout de suite relié à Cyrano à ce moment-là. Voilà. Le peintre hors la loi, c'est un album de Franz Duchazeau paru chez Casterman. Merci Thierry. À la semaine prochaine.